Rendez-vous de la Francophonie is an annual celebration that promotes the French language, heritage, and its numerous cultural expressions. It runs March 2nd to 22nd, 2017 in communities across Canada. The RVF series, which showcases the diversity, duality, and dynamism of Canada's Francophone communities, is brought to you by La Fondation Canadienne pour le Dialogue des Cultures, the National Campus and Community Radio Association, Canadian Heritage, and this station. Please stay tuned for the next half hour for this week's edition of Rendez-vous de la Francophonie. Visit ncra.ca/RVF for more information on the series.
Cette émission spéciale d'Ève et Pandore, produite par CKUT 90,3 FM à Montréal, dans le cadre des rendez-vous de la francophonie. Ici Audrey Gosselin-Pellerin, votre animatrice. Ève et Pandore est une émission féministe francophone qui porte un regard réflexif et intersectionnel sur différents enjeux, met de l'avant des pistes d'action féministes et offre un espace de parole à d'autres féministes afin qu'elles puissent partager leurs savoirs et leurs expériences. Dans cette édition d'Ève et Pandore, nous explorerons la fiction féministe et nous discuterons de la pertinence des médias féministes francophones en Amérique du Nord. Sans plus tarder, on plonge dans la fiction féministe grâce à Florence B. Lepage qui nous propose une interprétation d'un extrait de « Toutes mes solitudes », roman de Marie-Christine Lemieux-Couture, une autrice féministe du Québec. En tant que féministe francophone et dans le cadre des rendez-vous de la francophonie, nous voulions, à travers la transformation sonore de cette histoire, participer au rayonnement de la littérature féministe canadienne écrite en français afin qu'elle fleurisse partout à travers le Canada. Le roman « Toutes mes solitudes » raconte le road trip d'une dénommée Cree qui décide de partir pour l'Ouest canadien sur le pouce avec sa fréquentation du moment. Le morceau choisi met en lumière les problèmes de consentement et de violence sexuelle au Canada. L'extrait débute alors que Cree est dans la vanne d'un camionneur sur la route de l'Ontario. Son chum, qu'elle appelle Couillon, car elle ne l'apprécie pas vraiment, le méprise même, dort à l'arrière.
Le vieux veut que je m'approche. Sa voix, elle a descendu comme lui dans le fond de son siège. On est à Thunder Bay, qui me dit dans son anglais de voisin du sud. Il se tape sur les cuisses, se félicite, je comprends rien. Il répète qu'il connaît un bon coin pour faire du pouce, qu'il va nous y laisser. Trop content de son lui-même, il va nous rendre un service de plus. Il disparaît un peu plus dans son siège, cale. Il est comme absorbé. Il veut que je m'approche encore plus. Deux ou trois mots qu'il a à me dire. Il me tire par la main. Mon peu de sens de l'équilibre cède. Sa voix, chuchotement à peine audible, semble venir de nulle part. Du bout de son minuscule index joufflu, il me trempe une direction. C'est là qu'il va nous débarquer. Là, c'est le point limite de Thunder Bay. Là où il reste encore quelques maisons avant que l'autoroute emporte tout ça vers un autre point. Il s'arrête. Je jette un regard derrière. Mon couillon dort, paisible, roulé en boule sur un petit coin du lit. Ses lèvres balbutient dans son sommeil comme s'il tentait de dire quelque chose d'imprononçable, hors langage. Je me sens tirée une seconde fois. Le vieux, empaqueté dans son siège, dans un style « c'était caché rayon des viandes », veut encore me cracher quelques mots à l'oreille. J'ai le regard fixé sur le vieux, mais ma vue est sinueuse. Il sourit de ses dents en macramé de carie. Qu'est-ce qu'il me veut encore? J'attends. Il me dit rien, rien du tout. Par contre, il me lâche pas la main. Ça non, il atteint solide. Et moite même. Il fait une allusion tacite au fait que le couillon dort. Je prends ça pour un réveil le don et je me lève. Out of nowhere, le vieux connard m'assoit de force sur ses genoux. Je tombe, il m'accroche un sein comme ça et me tripote un peu. Perf! Un coup de coude dans les côtes, twist de testicules comme elles se sont jamais fait valser. Je les lui écrabouille, les tords, qu'il souffre sa vie. J'aurais aimé les lui arracher avec férocité puis les lui fourrer en pleine gueule, qu'ils les avalent, qu'ils retournent à leur place par voie intérieure. Il a rien vu venir. J'accroche mon sac et je sors. Couillon ou pas. Faut croire que le vieux, il en a pas voulu du couillon. Il l'a foutu dehors avec ce qui lui restait de rage et de force malgré la douleur. Il a fait un vol plané, le couillon. Il a pas touché une marche, sorti d'un bond et bang, à terre. C'est le frottement sur le gravier qui l'a réveillé. Le vieux a détalé « Merci, bonsoir ». On voyait même plus sa tronche tant il devait mâchouiller les coins de son siège. Quant au couillon, il a rien vu, rien entendu. Tout compte fait, il s'est aperçu de rien. De rien. Sommeil oblige. J'y tiens pas trop à ce qu'il sache que le vieux connard a essayé de me tenter ici et là. C'est le genre d'histoire qu'on est un peu mal foutu de raconter de toute façon. Est-ce qu'il va me croire? Il va s'imaginer quoi? Puis qu'est-ce que ça changerait? Comme je connais mon couillon, il va me dire que je l'ai cherché ou bien que c'est normal, que je suis pas une fille qui passe inaperçue, qu'on aurait plutôt envie de me peloter en tout temps, tout lieu. La nuit plombe. Mon couillon, il est pas du tout fatigué. Il est même surpris de me voir dégringoler au lieu de marcher. Encore qu'il faille monter les tentes, activité largement au-dessus de mes capacités physiques du moment. Je rigole, tournoie, incapable de déplier les poteaux dont je ne sais que faire. Constatant les dégâts, Jean se bombe le torse et prend la situation en main. Urgence! Tant en détresse, le voici, le coureur des bois mène. Il pisse les instincts virils de partout, c'est presque indécent. Il monte ma tente en un tour de main de mâle alpha. Il jette nos sacs, flanque sa tente de nos sleeping bags et matelas de sol, allume une chandelle. Le tout inclus dans le sud? Fuck that! Je suis à Coyens Bay, puis je vois des étoiles. Vidée, hébétée, je gambade autour de mon corps et m'affale dans le sommeil profond. Des cris d'enfants me réveillent au petit matin. L'ambiance tente me donne un sentiment d'inquiétante étrangeté, comme si je baignais dans la quatrième dimension. Il fait ni chaud, ni froid, ni clair, ni noir. Juste un condensé de tout ça. Et humide, collant aussi. Dans notre cage de toile, Jean Couillon paraît tout petit. Il ronfle, enroulé sur lui-même. Mais qu'est-ce que je crisse à poil? Un petit pincement vaginal ne me laisse aucun doute. Quel con! L'avantage d'avoir sa blonde en voyage, ça reste la promiscuité de la chair et la disponibilité du trou. La poupée gonflable de luxe qui bouge et qui suce. Je vais passer la journée à me répéter. Quel con! Et quel con! Quel con! En jetant un coup d'œil sur le couillon, une envie presque malsaine de lui foutre mon poing sur la gueule me prend jusque dans le bas du ventre. Il n'y a qu'une seule solution, enfiler quelque chose et changer d'air. Quoique, avec cette oppression tentorielle, ce manque d'espace opaque, cette promiscuité forcée dans une tension bidonvillesque, je pourrais... Le découper en morceaux, l'enrouler dans sa tente, le ranger dans son sac, faire un feu et m'en griller une petite tranche de rien du tout pour déjeuner. Je vois mon couillon s'habiller en ombre chinoise. La tente grouille. Je me prends le pouls, voir si je me situe dans une zone raisonnable ou du moins réceptive. 160. Mauvais signe. Il sort, le sourire tout fringant. Ça y est, ma pulsation cardiaque augmente à 190. L'arrière-goût de lui flanquer mon poing sur la gueule me prend comme un reflux gastrique. Il fait exprès ou quoi? Il y a le machin qui pendouille en dehors de sa fermeture éclair. Il secoue le bas des reins, l'exhibe fièrement. Je lui pointe les enfants. Sursaut. Il se reculotte trop vite, puis zouip! Son machin coincé dans son zipper. Joli. Mon pouls retourne à la normale. Mon couillon s'approche de moi, larmes aux yeux, le truc tout scalpé, le petit bout bleu. J'ose pas rigoler, mais c'est pas l'envie qui manque. Je me mords la langue.
Hey, Gris, tu m'aiderais pas, s'il te plaît?
Mais avec plaisir, mon lapin! Je prends le bout de son petit bout du bout des doigts, le zipper de l'autre, tiens le tout bien fermement, un dernier regard vers le sien et je tire d'un bon coup! Un sourire de contentement absolu se dessine sur mes lèvres. J'ai quand même un brin de compassion, j'avoue. Ça fait pitié, la petite goutte de sang timide qui borde son prépuce. Mais c'était quand même soulageant d'avoir son destin sexuel entre mes mains. Tout qui dépend d'un petit coup vers le bas ou vers le haut. Moi, la fatalité. Ça lui apprendra à gazouiller avec le paquet en giblotte. Les sous-vêtements, c'est pas qu'une idée comme ça. C'est la postérité. Je sors la trousse de premier soin. Moment de tendresse. J'applique doucement la crème au couillon. Ça picote, ça pouiche, il se tortille. Je lui dis de pas se gratter surtout. Mais il est parti. Il sautille de ci, de là. De l'air, il en a besoin. Puis vite, ça chauffe. Je le rattrape. Souffle tendrement sur sa blessure. Et le voilà réconforté.
Vous venez d'entendre l'interprétation d'un extrait de « Toutes mes solitudes » de Marie-Christine Lemieux-Couture, publié par les éditions de ta mère. Merci Florence pour ce petit bijou de fiction radiophonique.
Ce soir, nous n'avons rien de précis à faire. Lorsqu'Étienne sera trop fatigué pour conduire, nous nous arrêterons dans un motel. Je les ai trouvés au bord du chemin. Deux oiseaux endormis.
En 2008, alors qu'elle démarrait le blog Je suis féministe, les fondatrices désiraient exprimer leur vision du féminisme dans leur langue, en français. Aujourd'hui, les plateformes féministes en ligne se sont multipliées, principalement du côté anglophone, et sont la source d'information principale pour de nombreuses féministes. Quelle place doivent occuper les médias féministes francophones? C'est ce dont j'ai discuté avec Marianne Prairie et Caroline Roy-Blais. Pour commencer, je vais vous demander un peu de vous présenter. D'abord, Marianne.
Salut, moi c'est Marianne Prairie. Je suis auteure et chroniqueuse et puis la cofondatrice de Je suis féministe. Et au sein du blog, ben, je fais partie de l'équipe d'administration. Je fais partie des meubles aussi, je pourrais dire.
Et Caroline?
Caroline Roy-Blais, je suis recherchiste et chroniqueuse. Je suis membre de l'équipe d'administration de Je suis féministe depuis déjà plus de 5 ans. Et je suis co-directrice de l'ouvrage Je suis féministe, le livre, avec Marianne.
On va discuter un peu du blog Je suis féministe. Qu'est-ce qui vous a motivé d'abord à mettre sur pied ce blog-là? Pourquoi c'est important pour vous de proposer une plateforme en français pour les féministes? Marianne?
Quand on a pensé à cette idée-là en 2008, en fait, ça a été une proposition de mon amie Isabelle N. Miron que j'ai prise au vol et puis qu'on a réalisée ensemble. Et puis toutes les deux, on était des jeunes féministes dans la vingtaine à cette époque-là. Et puis tout ce qu'on lisait, c'était sur des sites américains, des sites en anglais. La façon qu'on avait de s'informer, d'ouvrir nos horizons, d'apprendre des choses sur le féminisme ou sur d'avoir une lecture féministe de l'actualité, ça se passait du niveau justement du côté américain. Et puis, Isabelle, elle disait, ça nous prend quelque chose en français, quelque chose qui reflète la réalité québécoise, entre autres, où on pouvait l'ouvrir, évidemment, à la francophonie, mais c'était vraiment une particularité, je dirais, de langue et puis aussi de territoire, là, si on veut. Mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans la politique québécoise, de regarder ça sous un œil féministe? Donc, il y avait vraiment cette intention-là de parler féministe en français puis de donner la parole à ces jeunes femmes-là qui se disaient féministes ou qui voulaient se dire féministes pour qu'elles puissent le faire dans leurs mots, dans leur langue, qu'elles puissent se l'approprier. Donc, c'était vraiment une des raisons principales pour laquelle on a fondé Je suis féministe en 2008. Et de cette façon-là, ça allait aussi briser l'isolement de ces jeunes féministes-là qui étaient chacune de leur côté, peut-être qui étaient plus ou moins à l'aise de lire en anglais, de comprendre tout ce qui se passait justement dans ces textes-là. Donc, c'était de donner ces outils-là, puis ensuite des traces dans le web de ces discussions-là en français pour que d'autres personnes puissent y avoir accès, puis d'agrandir cette communauté-là.
Et Caroline, est-ce que tu avais cette impression-là qu'en s'informant toujours à travers des médias anglophones, votre féminisme ou ton féminisme, tu peux répondre de manière plus personnelle, évoluait un peu, pas en vase clos de ce qui se passait au Québec, mais que finalement, tu finissais par t'inscrire plus avec les discussions des féministes anglophones américaines?
Je dirais, moi, à ce moment-là, en 2008, quand le blog a commencé, je ne consommais pas beaucoup de blogs américains, justement à cause de la barrière de la langue. C'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Je me considérais féministe, mais j'étais constamment en train de consulter ce qui s'était fait avant avant moi, dans le fond. T'sais, je lisais, par exemple, La vie en rose. Je me documentais sur des choses principalement québécoises, mais la barrière de la langue m'empêchait un petit peu de me documenter sur ce qui était actuel dans le féminisme.
Puis c'est quoi les défis, selon toi, d'avoir un blog francophone, féministe à l'époque?
Les défis, ça a été de se faire connaître, ça a été de recruter des correspondantes, ça a été d'asseoir une certaine légitimité, une certaine autorité, d'expliquer pourquoi c'était important de donner une voix justement aux jeunes féministes francophones. Donc, je dirais que ça a été les défis du début. Puis ça a été ça aussi qui a animé Je suis féministe dans les 8 dernières années.
Qu'est-ce que Je suis féministe vous a permis d'accomplir, selon toi, Marianne, pour la communauté féministe au Québec?
Bien, au fil des ans, je pense qu'on a justement rassemblé ces jeunes féministes-là autour de ce portail-là qui est Je suis féministe. On a réussi à briser l'isolement d'une certaine façon parce qu'on avait une adresse où je pense que tout se sentait assez bienvenue, que c'était quelque chose qui était un safe space aussi sur le web. C'était avant que les médias sociaux prennent énormément de place. Donc, ça a permis ce contexte-là technologique, je dirais, de rassembler beaucoup de jeunes féministes et puis aussi d'élargir tout ça à la francophonie, d'avoir des lectrices et des correspondantes aussi qui n'est pas seulement du Québec. Je pense que ça s'est bâti tranquillement. Et puis, 8 ans après, on se rend compte de l'importance que ce premier blog féministe francophone, ce projet collectif-là, a eu dans ce mouvement de prise de parole des jeunes féministes, parce qu'elles le font énormément aujourd'hui en 2016. Donc, je pense que ça s'inscrit dans quelque chose qui était en émergence, ça a été peut-être un accélérateur d'une certaine façon, mais ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait un besoin, puis on a répondu à ce besoin-là.
Depuis la création de Je suis féministe en 2008, comment voyez-vous maintenant que l'offre médiatique féministe a évolué, tant du côté anglophone que francophone, Caroline?
Ça l'a décuplé, je dirais, là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup partout. Si on pense à TPL, qui a commencé vraiment comme un blog de mode.
Ton petit look.
Oui, exactement. Maintenant, il y a énormément de chroniques qui sont faites sur le féminisme. Si on pense, par exemple, à Châtelaine, qui retrouve sa première fonction, parce qu'à la base, Châtelaine était un magazine féministe, est devenu un magazine de mode et redevient tranquillement un magazine féministe. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Il y a plusieurs plateformes qui en parlent. C'est plus un mot tabou, c'est plus un mot qu'on dit « Ah, oh, mais moi, je suis féministe ».
Encore aujourd'hui, Marianne, il y a certains savoirs, certaines discussions, certains enjeux qui sont quand même plus présents dans les médias féministes anglophones, donc évidemment dans la communauté anglophone en général. Lesquels, selon toi, quel type d'enjeux, quel genre de discussions sont plus présentes?
Ah ben c'est ça, nous autres, du côté francophone, on vient de découvrir l'intersectionnalité, là. ça vient de débarquer, là. C'est fraîchement arrivé il y a à peu près 2-3 ans.
Et pourtant, donc, ça fait combien d'années, selon toi?
Ça fait plus de 20 ans, là, que c'est du côté anglophone, puis que c'est discuté, que c'est analysé. Cette discussion-là, très importante, d'où les diverses oppressions se croisent, et puis où est-ce qu'on peut pas prendre le féminisme dans justement un vase clos, qu'on doit discuter de ça avec différentes formes de discrimination et tout ça, puis pour avoir un travail qui soit productif, pour tenir compte de tout le monde, pour que toutes les femmes soient égales au sein même du féminisme. Donc, ça, c'est un enjeu, je pense, c'est le plus gros, je dirais, là, du côté francophone, qu'on sent le retard. Mais toute cette discussion-là, féministe, par exemple, sur le genre, des choses un peu plus, je dirais, un peu plus loin dans l'horizon féministe, surtout au niveau théorique, on a peu de traces de ça en français. Des traces vulgarisées, en fait, des textes qui permettent, par exemple, à des jeunes féministes ou des nouvellement féministes de s'approprier, de comprendre, d'avoir un premier contact avec certains concepts théoriques qui sont, oui, peut-être documentés dans des recherches ou dans des thèses et des choses comme ça, mais qui vont rester cachés dans des voûtes. Donc, je pense que c'est important d'avoir ce regard-là puis d'expliquer ce qu'il y en est pour que de plus en plus de gens s'y intéressent, prennent part à la discussion puis voient que, justement, ça peut être profitable pour le plus grand nombre.
Puis les médias féministes francophones vont peut-être donner l'étincelle qui vont faire que les gens vont découvrir l'intersectionnalité ou d'autres enjeux puis vont vouloir aller approfondir ça. Caroline, si on essaie de faire un portrait des voix féministes qui sont présentes au Québec, quel portrait, toi, fais-tu? Puis qui est peut-être pas présente dans les voix, les féministes qui ont accès à la parole au Québec?
Les voix qu'on entend le plus souvent au Québec, c'est surtout les femmes blanches, quand même éduquées, qui ont accès à un certain bagage de connaissances. Celles qu'on entend moins souvent, c'est les femmes noires, c'est les femmes latinas, ça va être aussi les femmes transgenres, ça va être aussi les femmes lesbiennes, qu'on va moins entendre.
Donc, il y a une importance, il y a une responsabilité en tant que, je dirais en tant que média, de donner la place puis de donner des opportunités pour que ces voix-là soient entendues. Puis, je pense que c'est une réflexion qu'on s'est faite récemment sur « Je suis féministe », de quelle façon, nous, on peut se positionner dans l'espace médiatique pour valoriser, pour faire entendre ces voix-là qui, justement, sont émergentes en français.
Et en quoi « Je suis féministe » peut contribuer à abolir la barrière entre les langues, si on revient encore à l'anglais, là, et donc la barrière entre les savoirs qui sont partagés au Québec, aux États-Unis, au Canada?
Mais je dirais que, par exemple, sur Je suis féministe, on avait publié une traduction d'un texte qui était 12 suggestions aux hommes dans des milieux féministes. Et puis ça nous avait aidé parce que c'est un texte qui était super utile, mais il était disponible uniquement en anglais. Donc, on avait demandé à une de nos correspondantes de le traduire pour nous aider. Sinon, on a plusieurs correspondantes qui ont justement pris des concepts et qui les ont expliqués en français, sur le blog, c'est de dire, ben écoute, ce concept-là existe. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'université et que j'étudiais l'intersectionnalité, c'était que des écrits en anglais. Donc, après ça, quand je me suis mis à bloguer en français, j'essayais d'intégrer ces notions-là pour essayer de l'expliquer sans nécessairement dire aux gens, allez lire tel texte en anglais, en considérant que c'est peut-être pas tout le monde qui est capable.
Il y a aussi l'exemple du test de Bechdel, oui. Bechdel, qui est des questions qu'on peut poser par rapport à une œuvre cinématographique qui définit si un film promeut l'égalité ou en fait qui fait en sorte que... donne la place aux femmes, représente bien les femmes dans ce film-là. Donc, on a eu un texte qui expliquait d'où venait ce test-là de Bechdel et comment on peut l'appliquer. Donc, ça devient un autre outil d'analyse féministe qui est accessible à tout le monde. Par rapport à la page Facebook, on essaie justement de partager le plus de textes en français possible, des choses qui peuvent être traduites comme des vidéos, des choses comme ça, sous-titrées. Puis des fois, on arrive avec des enjeux dont on veut parler, par exemple, les épingles de sûreté, les safety pins, là, post-Brexit et puis là, post-élection de Trump, où est-ce que les personnes alliées pouvaient porter ces épingles pour dire « je suis solidaire, je suis empathique avec des personnes marginalisées ». Et puis, les safety pins ont eu des vives critiques et puis on ne trouvait pas de texte en français pour parler de ces critiques-là. Donc, c'est ça, l'idée aussi de « Je suis féministe », c'est d'avoir ces points de vue-là qui sont parfois critiques, puis dans l'actualité, dans les choses qui se passent en ce moment même, on veut les publier, on veut les diffuser, tu sais, puis d'avoir ça en français...
D'avoir une offre.
C'est ça, c'est extrêmement important. Mais donc, c'est ça, c'est d'avoir la rapidité, l'équipe, tout ça qui peut faire en sorte que cette information-là soit disponible et comprise par les francophones aussi, c'est important.
Je suis féministe a tout récemment sorti un livre, donc c'est un recueil de textes du blog depuis les tout débuts. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de faire un portrait de ce qu'a été Je suis féministe jusqu'à maintenant?
Mais en fait, c'était super important pour nous de laisser une trace écrite, de lancer ça un peu comme un espèce de... Bon, j'allais dire testament, mais c'est peut-être pas le bon mot parce qu'on veut pas finir maintenant, là. Mais je dirais vraiment laisser une trace de ce qui s'est écrit.
Puis le livre papier permet aussi de mettre en valeur ces textes-là qui, oui, sont toujours disponibles sur le web, mais qui va aller les chercher, qui va les lire dans la masse d'informations qui est disponible sur le web, de quelle façon on a accès aussi à ces traces-là? Puis c'est quelque chose qui se passe très bien, puis c'est quelque chose qui aussi permet à d'autres personnes de découvrir « Je suis féministe », comme je pense justement à des femmes de la génération de nos mères qui lisent pas le blog, mais qui ont tout avantage à lire ces textes-là parce qu'elles peuvent justement comprendre un peu mieux la génération qui les suivent, puis aussi à des très jeunes femmes qui n'étaient pas là quand ces textes-là ont été écrits, qui n'étaient pas sur le web, donc qui ont maintenant la possibilité de les découvrir.
Donc, ça permet de faire revivre les textes qui ont été publiés. Bon, ben pour terminer, Marianne, peux-tu nous dire comment est-ce que vous entrevoyez le futur de Je suis féministe?
Ben, je pense que Je suis féministe a un futur assez radieux. On a des nouvelles membres dans l'équipe d'administration qui sont extrêmement dynamiques et puis pleines de bonnes idées. Et puis, on brasse un peu, je dirais, la forme de Je suis féministe. Le blog étant comme... justement, était la forme appropriée en 2008 pour donner une voix aux jeunes féministes francophones. Est-ce que c'est encore le cas en 2016, quand on a les médias sociaux, quand le web s'est transformé? Il faut s'adapter au contexte des féministes actuels, puis aussi des médias actuels.
Merci beaucoup, Marianne Prieri, Caroline Roivret, d'avoir été là avec nous, puis longue vie à Je suis féministe.
Merci. Merci beaucoup.
La fin de cette édition spéciale d'Ève et Pandore, produite par CKUT 90,3 FM à Montréal, dans le cadre des rendez-vous de la francophonie. C'était Audrey Gosselin-Pellerin, votre animatrice. Pour plus d'informations sur notre émission, consultez la page Facebook d'Ève et Pandore, facebook.com Ève et Pandore CKUT 90,3 FM en un mot. Vous pouvez aussi vous abonner à la balado de l'émission pour écouter davantage de contenu féministe en français. Ève et Pandore est disponible sur votre application de balado préférée. Merci d'avoir été des nôtres!
Thanks for joining us for this week's edition of Rendez-vous de la Francophonie, presented by La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, the National Camps and Community Radio Association, Canadian Heritage, and this station. To learn more about the RBF series and the National RBF Celebration, and to send us your comments, visit ncra.ca/RBF.